Well, I don't think I could have chosen a better message in song for the service that was on my heart than what we've just heard.
Je ne pense pas que j'aurais pu choisir des chants mieux appropriés au message que je veux partager ce matin. Si je peux résumer ce qui est sur mon cœur, c'est de suivre le Seigneur un pas après l'autre très près de lui en entendant la voix du Saint-Esprit. Notre frère qui a partagé son témoignage a dit « Je dois rester près du Seigneur à cause de son passé dans le péché. » Mais chacun d'entre nous, en fait, devons rester près du Seigneur. Entendre la voix du Seigneur, Paul dit à une église, travaille à ton salut avec la crainte et le tremblement. Travaille à ton salut dans la crainte et le tremblement. Pas une question de si tu étais dans le monde jusqu'à maintenant. Ou que tu as eu une conversion exceptionnelle. Ou depuis combien d'années tu es un chrétien ou que tu vas à l'église. Et peu importe si tu as une position dans l'Église, Paul nous dit, travaille à ton salut. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu y travailles encore? Avec crainte et tremblement. Où est-ce que tu es devenu habitué? Qu'est-ce que tu t'es habitué à faire partie de l'Église de Dieu? Alors c'est garanti que tu vas tomber. Il y avait beaucoup de personnes ici par qui le Seigneur a utilisé de façon exceptionnel, mais ils se sont relâchés. Ils ont commencé à écouter toutes sortes de voix. Et ils sont devenus confus. Ça les a troublés, ces voix qu'ils ont entendues. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mes amis, nous ne haïssons pas les pécheurs. C'est pas que nous ne ressentons pas l'amour de Christ dans notre cœur pour que les pécheurs soient sauvés. Ce n'est pas que nous n'avons pas de compassion pour les pécheurs, même le pécheur qui, est pas, qui a vécu dans les péchés les plus immondes, non, c'est pas parce que nous n'avons pas d'amour pour leur montrer le chemin vers le Seigneur. Mais mes chers amis, c'est pas un endroit ici où on rend les où on rend l'endroit confortable pour les chrétiens tièdes, pour qu'ils se sentent bien et confortables dans leur état tiède ici. Il n'y a pas de place pour un chrétien tiède, pour rester ici, dans ton état, à moitié, avec, et pour recevoir de l'amour et de la compassion, alors que toi, tu n'es pas prêt à te séparer de ton péché. Il y a eu un esprit de rébellion qui a commencé au ciel. Et la Bible nous dit que le moment que Dieu l'a vu dans le cœur de Satan, ce moment, il a été jeté en dehors du ciel comme un éclair. Instantanément. Dieu n'a pas permis à Satan de rester là et de dire « Je vais rester assis à côté de toi, à tes côtés, avec la rébellion que tu as dans ton cœur. » J'aurai la patience pour toi, tu peux rester encore un petit peu au ciel. Non. Dès que Dieu a vu de l'orgueil et de la rébellion dans son cœur, instantanément, il a rejeté du ciel. Et c'est notre désir, c'est là le désir que l'on a pour cet endroit ici. Pas de place pour une personne qui veut passer le reste de sa vie dans un état tiède. Le Seigneur Jésus en a aussi parlé. Et il a dit à une des églises, parce que tu es tiède, que tu n'es pas chaud ou froid, je vais te vomir de ma bouche. Qu'est-ce que c'est qui va m'aider pour que je ne tombe pas dans un état tiède? Qu'est-ce que c'est qui va m'aider, moi, qui va t'aider, toi, d'entendre la voix du Saint-Esprit? De te détourner de ta vie de péché. Peu importe la profondeur de ton péché, les choses extrêmes dans lesquelles tu étais impliqué. Le ciel est un endroit où les pécheurs peuvent aller quand ils ont été sauvés. Dieu peut te sauver. Mais lisons donc ce texte et on passera par quelques exemples de la parole de Dieu. Jérémie 48, verset 11. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Moab vivait en paix, on le relit. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Mes amis, c'est le but de Dieu pour chacun d'entre nous. Notre goût doit changer. En d'autres termes, quand il goûte notre vie, ça doit changer. Notre odeur doit changer. Ça doit se passer quand on rencontre le Seigneur. On confesse nos péchés pour la première fois. Nous recevons le pardon des péchés. Mais ça doit continuer à se passer dans notre vie de tous les jours. D'un jour à l'autre, mon odeur et ton odeur doivent changer. Cet exemple que le Seigneur donne dans ce texte vient de la façon dont il faisait fabriquer le vin à l'époque. Quand il récoltait les grappes, le raisin, il les écrasait pour en obtenir le jus. Et alors, il mettait ensuite le jus dans des gros pots en terre. D'abord, il le laissait avec la peau du raisin. Parce que ça donne un certain caractère, un certain goût à ce raisin, à ce vin. Dieu ne veut pas changer qui tu es. Il ne veut pas que tu deviennes comme d'autres personnes. Il t'a fait d'une façon particulière. Et il a fait cela pour une raison, pour un but. Le fait que tu es qui tu es apporte de la joie à Dieu. Mais il laisse alors après ces raisins dans des gros pots en terre. Et il laisse les pots du raisin tomber au fond. Et il laissait ça donc se faire pendant des mois. Et après des mois, il prenait ce pot, il versait le vin pour garder les pots de raisin au fond. Parce que si les pots du raisin restent trop longtemps, alors ça rend le vin amer. Et ensuite, il le laissait de nouveau pendant des mois. Et des petites particules se déposent au fond. Et de nouveau, il reversait ce qui était sur le dessus, le vin, et garde le dépôt au fond. Et après, ils attendaient encore plus longtemps. Parce que rappelez-vous, les particules dedans sont de plus en plus petites. Toutes les grosses choses ont été sorties déjà depuis longtemps. Et ces toutes petites particules prennent longtemps pour qu'elles se déposent au fond à nouveau. Alors, il versait le vin et il gardait au fond le dépôt qui était resté. Finalement, il voulait que le jus soit clair, avec aucune particule restant dedans. Maintenant, là dans notre texte, Dieu parle à Moab. Il dit à Moab, ça ne s'est jamais passé avec toi. Tu es resté assis, tu es resté confortablement dans ton état premier. On ne t'a jamais renversé. Qu'est-ce qui se passe avec nous si on est versé? Dieu nous met dans des circonstances qui sont inconfortables, qui sont nouvelles, des nouvelles conditions, un nouveau pot encore en terre, si on peut dire. Et de cette façon, touche certaines choses dans ta vie qui restent, qu'il veut que tu dont il veut que tu te sépares. Et chaque fois qu'il le verse, le goût du vin devient de plus en plus meilleur. Et l'odeur du vin devient de plus en plus meilleure. Jusqu'à ce que ce soit parfaitement ce qu'il en veut. Dieu peut utiliser toutes sortes de difficultés pour accomplir cela dans ta vie, dans ma vie et dans ta vie. Parfois, c'est quelque chose de très radical qui se passe, comme ce qui s'est passé avec notre frère, JJ, qui a donné son témoignage. Sa grand-mère est décédée. La seule personne à qui il faisait confiance, la seule personne qui était gentille avec lui, qui l'aimait, Dieu est venu et a pris sa grand-mère. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Il l'a renversé dans un nouveau pot en terre. Quand Dieu fait cela, mes amis, il n'y a aucun sens à tout ça à nos yeux. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi? Je ne vois aucune raison pourquoi Dieu laisserait une telle chose se passer pour moi. Il enlève tout ce en quoi tu as confiance. Il enlève tout ce à quoi tu dépends. Ou il enlève tout ce que tu penses qui rendait ta vie valable. Ce qui donnait un sens à ta vie. C'est ça qu'était sa grand-mère pour lui. Tout le reste, toutes les autres personnes, il les haïssait. Il faisait rien pour lui. Il ne donnait pas de sens à sa vie. C'est comme si Dieu tirait le tapis de sous ses pieds. Dieu peut faire cela. On dit un proverbe en afrikaans qui dit, si on traduit un peu, ça peut dire que toi tu essayes de tirer les ficelles par-ci, par-là pour essayer de faire bouger les choses, mais Dieu, quand il arrive, il tire le tapis de dessous tes pieds. Et l'image que Dieu utilise là est encore pire. Il renverse tout dans un nouveau pot. Tout a changé. Et maintenant, tu dois apprendre à recommencer à zéro pour essayer de comprendre comment vont se passer les choses. Est-ce qu'on permet à Dieu de nous changer de cette façon? Parfois, il ne fait pas des choses si grandes, si importantes. C'est juste une petite chose. mais il me parle à travers cette chose. Mais si j'entends la voix du Saint-Esprit, je vais laisser faire ce travail. Sinon, mon propre moi va rester en vie. Mon moi ne voudra pas devenir humble. Mon humilité ne sera pas complètement pure. Quand Dieu sent mon humilité, peut-être qu'il sent un petit peu d'orgueil. Parce que je pense que peut-être que je suis quelqu'un parce que je suis si humble. Et Dieu n'aime pas cette odeur d'orgueil dans ton humilité, mon cher ami. Il y a quelque chose de toi qui reste et qui tâche même les bonnes choses que tu fais. Ta patience. Tu dis, ah, c'est vraiment bien, je suis une personne très patiente. Et Dieu dit, c'est bien que tu essaies d'être patient. Mais c'est pas libéré de ton orgueil, de ton moi propre. Et si nous ne permettons pas à Dieu de faire cela, alors les choses rentrent dans notre vie. Les choses charnelles commencent à rentrer dans ma vie. Lentement mais sûrement, je rends les choses inconfortables. Ah non, je rends les choses confortables pour moi-même. J'attends du respect des personnes autour de moi. Mes amis, chaque jour que nous vivons, c'est un jour de plus que nous devons avancer dans la crainte et le tremblement. Je sais ce que c'est que de prendre un pas et n'avoir pas fait vraiment attention à 100% que c'était un pas avec le Seigneur. Cela coûte. Et tu dis, Seigneur, oh, c'était pas une grosse chose que j'ai fait, je me suis trompée. Mais le Seigneur dit, oui, mais ce n'était pas juste. Je veux que ce n'est pas complètement juste. Je veux le changer, le purifier. Et je pensais à des exemples de la Bible. Un exemple qui m'est venu était Ésaü. Ésaü a grandi dans une maison où les parents étaient croyants. Il a grandi sous les yeux de ses parents Isaac et Rebecca. Avec Jacob. Rappelle-toi, Ésaü était le premier-né. Il avait l'onction sur lui. T'as dit qu'il recevrait un jour la bénédiction de son père. Mais lentement et sûrement, Ésaü s'est habitué à cette position, c'est devenu plus très important pour lui. Et un jour, il est revenu de la chasse, il était fatigué, il avait faim, il avait soif, il voulait manger. Je suis sûre qu'il y avait à manger dans la maison. Je suis sûre qu'il aurait pu aller demander à sa mère quelque chose à manger. Mais regardez combien on doit être attentif. Dans un moment de... Il a manqué de... Il n'était plus assez attentif. Il a perdu cette bénédiction, une fois pour toutes. De négligence, un moment de négligence. Il est allé dans sa maison et il a dit à son frère, « Donne-moi quelque chose à boire. » Et Jacob avait une casserole de nourriture, de la soupe de lentilles, c'est rien de particulier. Et à ce moment-là, il a été négligent et il a parlé. Jacob lui a dit, « Ok, je te donne la soupe, toi tu me donnes le droit d'aînesse. » Et à ce moment, négligence, il a dit, « Ah, c'est pas grave, prends-le, vas-y, donne-moi à manger. » Et je ne pense pas que c'était la première ou la dernière fois qu'il était négligent comme ça. Sûrement qu'il avait développé une attitude de négligence. Il a parlé. Et parce qu'il a dit, avec une phrase, il a perdu son droit d'aînesse. Pour toujours. Une phrase. Mais chers frères chrétiens, est-ce que vous réalisez sur quel chemin étroit nous marchons? Est-ce que tu réalises ce que je dis? Vous réalisez ce que je dis quand je dis qu'il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Par nos paroles, nous pouvons causer un énorme dégât et perdre notre bénédiction. Fais très attention à ce que tu dis, ce que tu vas raconter aux gens. Dans un moment de confidence, peut-être, fais attention à ce que tu dis. Il y a un Dieu au ciel qui entend tes paroles pendant que tu les parles. Peut-être que tu es une personne qui dit des blagues. Mais si tu ne fais pas attention avec tes blagues, tu pourrais perdre la bénédiction que Dieu veut te donner. Mais nous savons que Ésaü était devenu déjà négligent. il était un objet de souci pour ses parents parce qu'il aimait les femmes étrangères. Ces femmes qui servaient des idoles. Alors il a fait cette erreur. Et à la fin, c'est Jacob qui a eu sa bénédiction. Tu sais quel en était le résultat? Jacob, qui était son frère, est devenu son ennemi. Ésaü le haït. Mais où c'est que ça a commencé? C'est venu par des paroles négligentes. Nous connaissons la fin de la suite de l'histoire. Quand c'était le moment pour Isaac de donner la bénédiction à ses fils, Ésaü était en train de chasser. Il s'occupait de ses propres besoins. Mon ami, fais attention si tu es sorti pour faire tes propres choses. C'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément un péché. La chasse n'est pas un péché. Et c'était ses propres plans alors qu'il a pas réalisé ce qui se passait. Le plan de Dieu, ce qui se passait au ciel à ce moment-là. C'était le moment où Dieu allait donner la bénédiction. Rebecca avait vu la vie que Ésaü menait. Elle a réalisé. Ésaü ne va pas servir le Dieu d'Abraham et de Isaac et de que moi je nous avons choisi. Et nous connaissons l'histoire, comment elle a tué un chevreau et qu'elle a mis la peau sur les bras de Jacob parce qu'Ésaü était poilu. Elle a préparé de la nourriture spéciale pour Isaac. Et c'est Jacob qui l'a amené. Isaac a mangé le repas. Et il savait que c'était le moment pour la bénédiction. Et il a dit, est-ce que Ésaü, est-ce que c'est toi? Viens que je te touche. Il a touché ses bras et il a cru que c'était Ésaü. En fait, les Juifs ont une autre version de cette histoire. Les Juifs disent que Isaac et Rebecca avaient tous les deux vu que Ésaü n'allait pas bien, qu'il avait pris un autre chemin. Et Isaac a joué le jeu, il n'a pas forcément discuté avec Rebecca. Parce que certaines personnes disent sûrement qu'il a dû voir la différence entre la peau d'une chèvre et la peau d'un homme. Nous ne savons pas. Mais ce que l'on sait, c'est que Jacob a eu la bénédiction. Et Dieu l'a honoré. Il a donné à Jacob la bénédiction. Il a dit ensuite, il est dit dans la Bible ensuite, Jacob j'ai aimé, mais Ésaü j'ai haï. Où c'est que ça a tout commencé? Avec des mots, des paroles que Ésaü a dites avec négligence. Et Dieu a permis, et il a permis que Jacob ait la bénédiction. Mes amis, faites très très attention, faites très attention. Et même vous, jeune homme chrétien, faites très attention si tu veux te marier. Qu'il n'y a pas encore quelques restes des raisins, de la peau du raisin dans ta vie. Que tu ne vas pas choisir une fille quand tu veux, mais la fille que toi tu veux. C'est un temps de ta vie que tu dois être dans la crainte et le temps tremblement. Parce que s'il y a quelque chose de ton ancienne vie et dans toi, quelque chose de toi, tu vas te marier avec la mauvaise personne, pas avec la personne que Dieu a prévue pour toi. Et tu vas croire que Dieu t'a parlé. Tu vas dire, c'est Dieu qui m'a donné des sentiments pour cette fille. Mais en fait, c'est parce qu'il reste des vieilles peaux du raisin dans ton vin. Parce que c'est comme ça qu'on est, nous, humains. Si on ne permet pas à Dieu de nous changer jour après jour, lentement mais sûrement, on va attendre que Dieu nous change en ce que nous on a envie. Je ne vais pas me mettre dans la volonté de Dieu et avancer dans sa volonté, j'aurai ma volonté. Je veux que Dieu s'adapte à ma volonté. Voilà notre exemple. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au paradis, l'endroit de Dieu. Comme au ciel, on pourrait dire. C'était le monde de Dieu, un endroit béni dans lequel il les a mis. Ils n'avaient pas besoin de travailler, ils n'avaient rien besoin de faire. Dieu s'en occupait. Mais ensuite, Ève est venue avec ses idées. Quand le diable lui a parlé, elle s'est dit, peut-être que Dieu est comme moi. C'est ce qui va se passer avec toi. Si tu ne changes pas, tu vas attendre que Dieu change pour être comme toi. tu seras en accord avec toi-même et tu vas attendre que Dieu soit en accord avec toi. Donc dans le monde de Ève, Dieu était jaloux et il avait peur que... Il pensait que Dieu avait peur que Adam et Ève deviennent comme lui. Mes amis, si Dieu ne te change pas, s'il ne change pas la façon dont tu penses, tu seras au ciel et tu amèneras les pires péchés dans le ciel. Tu rencontreras toutes sortes de filles, toutes sortes d'hommes. Il y a l'électricité dans l'air. Tu as une affection particulière pour cette personne, la façon dont elle est, son caractère. On sent qu'on a des atomes crochus. C'est comme ça que ça commence. Tu sens une attraction émotionnelle vers une personne. Et tu penses que c'est normal. Chaque homme est comme ça. Tu penses que c'est normal que les femmes soient attirées vers les hommes? Non, c'est pas normal. C'est ton monde. C'est ta vieille peau qui reste dans ton vin. Ça doit sortir de ton cœur. Même si tout le monde entier dit que c'est normal. Dieu dit c'est mauvais, c'est pas juste. Tu ne devrais pas avoir une attraction pour les hommes. C'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Quel en est le résultat? Lentement mais sûrement, on accepte de plus en plus grandes mauvaises choses dans nos communautés et on pense que c'est normal. Il y a des chrétiens qui acceptent l'éducation sexuelle pour planter des graines d'immoralité dans la tête des petits-enfants. Écoute, vous savez, les statistiques nous montrent qu'il y a environ 200 milliards de sites internet pornographiques. Combien de personnes vivent sur la Terre? Il y a peut-être 7 ou 10 milliards, je ne sais pas. Il y a 200 milliards de sites pornographiques. Il y a tellement de pornographie que même tout le monde entier ne peut pas utiliser tout ce qui est disponible. Et t'enseigneront les pires formes de sexualité, les plus tordues et de perversion. Et tu dis, pourquoi je suis un chrétien, pourquoi je ne peux pas regarder ces choses? C'est normal. Il n'y a rien de mal. Je conclue avec un dernier exemple. un jeune homme qui n'était pas prêt à être changé par Dieu. Je veux aller vers l'histoire, la version juive de l'histoire du fils prodigue. Les juifs aussi ont une parabole du fils prodigue. Et je vais vous lire cette histoire. C'est la parabole d'un prince qui avait péché. Et à la fin, il a dû partir du palais de son père. Comme le fils prodigue dans la Bible. Il est parti, il a vécu une vie morale d'un endroit à l'autre. En passant du temps avec la boisson, on jouait aux cartes. Et tout ce temps, il est descendu de plus en plus profond. Finalement, il n'avait plus d'argent. Il a rejoint un groupe de gens pauvres qui vivaient avec qui avaient quelques cultures et il habitait avec eux. Il a mangé leur pain et il a marché avec eux et il travaillait avec eux, pardon. Il travaillait avec eux et aussi il mangeait avec eux. Attention avec qui tu manges ton pain, je parle de façon spirituelle, par son figurative. Un jour, le roi a envoyé un de ses seigneurs pour trouver son fils. Parce qu'il pensait peut-être que mon fils a changé. Peut-être que je peux le ramener. Et ce seigneur l'a trouvé en train de cultiver un champ. Il était un seigneur du roi. Et alors il allait voir le fils. Il lui a dit, « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Le fils a dit, « Oui. » Il n'a même pas levé la tête. Il a continué à travailler. Il a dit, oui, je sais. Vous savez, cette attitude, j'ai déjà rencontré cette attitude. Oui, c'est bon, je sais qui tu es. Et le Seigneur est venu vers lui et lui a dit, et qu'est-ce que tu voudrais demander à ton père, le roi? Qu'est-ce que je devrais lui dire de ta part? Écoutez la façon dont le prince lui a répondu. Combien ce serait merveilleux si mon père prenait pitié de moi, avait pitié de moi. Et envoie-moi une robe. Un habit comme les autres paysans. Il voulait rester là-bas. Il voulait rester comme ça parce que quelque part au fond de lui, il avait encore quelque chose contre son père. Si mon père peut m'envoyer un vêtement comme les paysans ici, et des grosses chaussures pour que je puisse faire du travail. Tu vois le piquant dans ses paroles. Tu sens la rébellion. Le sarcasme. Il se dit, si mon père il pouvait avoir de la pitié. Et comment a répondu le Seigneur? Le Seigneur du roi alors a répondu, ô toi, fou. Il aurait été mieux que tu demandes à ton père que tu lui demandes qu'il te reprenne dans sa maison. Est-ce qu'il manque de quoi que ce soit dans le palais de ton père? Mais pourquoi il ne le voulait pas? Malgré ses souffrances, il restait des peaux du raisin dont il n'avait jamais été libéré. Il avait un certain orgueil. Il n'avait pas un cœur brisé. Il avait sa peau épaisse, on dit de la peau épaisse, ça veut dire une dureté. Que Dieu nous fasse grâce. S'il reste quelque chose de nous-mêmes, de notre vieux moi, ça va nous détruire. Ça va enlever la bénédiction qui est prévue pour nous. Ça va nous chasser du jardin d'Éden. Et ça va nous retenir d'aller retourner vers notre Père Céleste pour demander le pardon. Mes amis, si vous venez à Jésus, venez avec tout votre cœur, avec un cœur brisé. Il ne va pas te chasser. Et si tu as été un chrétien pour longtemps, et que tu habites ici à la mission, fais très très attention que quelque chose de ton orgueil et du fils prodigue ne reste pas dans ta vie. Tu travailles au milieu de nous, tu marches au milieu de nous, mais il y a quelque chose, un orgueil et une dureté et des rancunes que tu portes dans ton cœur. Et tu penses que c'est OK? Ésaü aussi a pensé que ça allait. Il était encore dans la maison de son père. Mais ce n'était pas accueilli. Tout d'un coup, Dieu est arrivé un jour où il ne l'attendait pas. Et il a perdu la bénédiction, il a raté. Et c'est son frère qui est devenu son ennemi. Je prie que Dieu nous donne un cœur un cœur doux, un cœur qui soit prêt à être enseigné. Qu'on puisse dire, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi ce que tu veux enlever de ma vie. Donne-moi la grâce d'accepter d'être humilié, que tu puisses me rendre plus humble. Et que je ne devienne pas quelqu'un qui rentre par la fenêtre, comme le Seigneur dit. Le mauvais berger qui rentre par la fenêtre au lieu de rentrer par la porte. Le jeune homme, le fils prodigue, pensait qu'il était justifié. Mais sa position juste ne venait pas de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce.
UNkulunkulu sekhulumile nathi wathinta izinhliziyo zethu ngendlela emangalisayo.
Je crois que le Seigneur nous a parlé. Ces paroles ont été écrites il y a des milliers d'années pour que nous puissions apprendre et prendre note. Nous en parler pour qu'on soit un peuple qui soit purifié, nettoyé pour sa gloire. Et si le Seigneur veut nous mettre d'un pot à un autre et nous transvaser de l'un à l'autre, qu'on soit prêt et qu'on comprenne et qu'on l'accepte. Aujourd'hui, nous avons l'occasion. Nous avons entendu, là où nous avons fait une erreur, où nous avons, notre attitude n'était pas juste. Nous avons là encore un temps de grâce pour changer et pour nous repentir. La porte n'est pas fermée. Nous avons l'occasion de nous rapprocher du Seigneur. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour la façon dont tu nous as parlé. Nous te remercions pour cet exemple des Moabites. La nation de Moab, qui est un exemple pour nous, une leçon pour qu'on on apprenne. Seigneur, aujourd'hui aussi, nous avons l'occasion de venir à toi pour être transformés. Pour que rien de l'ancien, quelque chose qui ne te plaît pas, ne puisse rester dans notre vie. Pour qu'on puisse être purifié. Aide-nous, Seigneur. que nous utilisions cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui. Nous demandons tout cela, faisant confiance au nom du Seigneur Jésus. Amen.